Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est le retour de votre rendez-vous l'heure des séries avec les conseils de nos deux spécialistes Audrey Fournier et Thomas Soutinel pour vos soirées binge-watching. Mais aujourd'hui, petite incartade à la règle, Thomas n'est pas avec nous, c'est donc Audrey qui a carte blanche pour nous donner envie de nous plonger dans de nouvelles fictions. Au programme, la sortie très attendue du Problème à trois corps, l'adaptation par les créateurs de Game of Thrones d'un livre culte de science-fiction chinoise, la suite de Tokyo Vice inspirée de l'histoire vraie d'un journaliste américain qui infiltre la mafia japonaise, et pour finir, la toute dernière création du scénariste Baron Noir. Salut Audrey.
Salut Jean-Guillaume.
Alors Audrey, on va commencer ton top 3 par l'une des séries les plus attendues de 2024, c'est Le Problème à trois corps, ou Problème à trois corps, on ne sait pas s'il y a l'article en français non plus. Alors spoiler alert, moi j'ai dévoré la trilogie littéraire, j'ai mon petit avis sur la série aussi, on pourra en discuter comme il n'y a pas Thomas. Mais je te laisse la parole déjà, c'est quoi exactement Free Body Problem ?
Bien, c'est une adaptation faite par Netflix d'un chef-d'œuvre de la science-fiction chinoise dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent, qui est signé Liu Xinjin, si je le prononce bien.
Tout à fait.
Et l'intérêt de cette adaptation, c'est qu'elle est faite par des grosses pointures de la série, les créateurs de la série Game of Thrones, qu'on connaît bien, David Benioff et Daniel B. Weiss. Ils se sont adjoints les services d'un troisième homme, Alexander Wu, qui est un scénariste connu pour son travail sur True Blood, la série True Blood, et pour laquelle il a été récompensé. Le Problème à trois corps, c'est une espèce de saga intergalactique extrêmement compliquée. Elle a été adaptée avec énormément de moyens, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars pour la saison. C'est une série qui se présente vraiment comme un très grand spectacle. Cette adaptation était extrêmement attendue.
Et alors, de quoi ça parle exactement ?
Oh là là, c'est extrêmement compliqué. C'est une série qui se déroule dans plusieurs temporalités, dans plusieurs espaces. C'est une espèce de millefeuille de couches. Il y a une couche qui se passe dans la Chine des années 60, pendant la révolution culturelle. Une autre qui se passe dans le temps présent, ou alors en tout cas un futur qui est très très proche d'une autre. Et il y a enfin une troisième couche au gâteau, qui est une espèce de jeu vidéo, qui est en fait une réalité virtuelle, dans laquelle les différents protagonistes de l'histoire sont invités à évoluer. Alors attention, je vais spoiler un petit peu l'histoire. Donc si vraiment vous n'avez pas du tout envie de savoir ce qui va se passer, bouchez-vous les oreilles. Dans les années 60, une astrophysicienne chinoise va nouer un contact, j'en dis pas beaucoup plus, avec un peuple extraterrestre. Et de nos jours, ces extraterrestres vont commencer à se manifester de façon beaucoup plus ouverte et ça va devenir beaucoup plus inquiétant.
Donc une histoire compliquée à comprendre, mais est-ce que tu as apprécié la regarder, cette série, tout de même ?
Alors, elle est compliquée à comprendre jusqu'à un certain point. C'est vrai que les premiers épisodes sont assez décourageants. C'est très complexe. Ça parle de science, ça parle de nanoparticules, ça parle d'astrophysique, ça parle de révolution autour du Soleil. Moi, je n'ai pas compris grand-chose dans les quatre premières heures. On va rester dans le flou jusqu'à à peu près la moitié de la saison. La seule chose que l'on saisit dans les premiers épisodes, c'est que le réel de l'histoire qui se passe dans le temps présent est en train de se dérégler. Les étoiles clignotent. Une bande de scientifiques voit apparaître une espèce de mystérieux compte à rebours qui s'imprime sur leur rétine. Il y a un personnage qui semble apparaître et disparaître. Il est invisible aux caméras de surveillance. Donc on sent que dans le présent, il se passe quelque chose d'inquiétant qui a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé dans les années 60 au moment de la découverte d'un contact possible avec les extraterrestres. Et ce contact va avoir des répercussions dans un futur assez lointain. Mais cette attente-là, elle va créer une espèce de hors-champ qui, peu à peu, va envahir toute la série et va créer une inquiétude assez intéressante, un mystère qui est finalement assez épais.
Quoi que ce soit, ça nous observe et ça nous écoute.
Ils arrivent et vous ne pouvez rien pour les en empêcher.
Donc une fois qu'on se met à comprendre un petit peu les enjeux de cette série avec cette inquiétude intéressante là que tu nous décris, on pourrait dire que c'est une expérience positive pour toi, cette série ?
Oh, oui, tout à fait. Moi, je me suis laissée entraîner, d'autant plus que c'est une série qui s'installe dans le temps long. On comprend bien qu'on est là pour longtemps. Ça me rappelle beaucoup Game of Thrones et l'attente qu'il pouvait y avoir d'épisode en épisode ou de saison en saison. Ça, c'est tout à fait intéressant de s'imposer comme une longue série et pas comme une mini-série. Le problème pour moi de la série, c'est il est pas tellement là-dedans. Il est plutôt du côté des personnages qui sont un peu faiblards. La série est tellement complexe, elle est tellement ambitieuse que les personnages sont utilisés, en tout cas dans les premiers épisodes, pour expliquer l'histoire. Leur trajectoire personnelle n'a pas beaucoup d'importance et on se retrouve avec des acteurs un peu en forme de boîte à dialogue, vous savez, qui sont un peu désincarnés, qui sont dans des longues scènes dialoguées. Mais là où ça avait beaucoup de charme dans Game of Thrones, bah là, on a plutôt l'impression qu'ils sont là pour nous fournir un peu un cours de sciences physiques, parce que sinon, on ne comprend rien. Et les acteurs ont l'air un tout petit peu spectateurs de ce qui se passe autour d'eux. Par ailleurs, il y a une espèce de retenue aussi de la part de Benioff et Weiss. Il y a eu tellement de critiques sur trop de sang, trop de sexe dans Game of Thrones que là, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe et franchement, parfois, on s'ennuie.
Alors, j'entends ce que tu dis sur les personnages, et c'est d'ailleurs intéressant, c'est parce que moi qui ai lu effectivement le livre, je peux voir un petit peu comment ils ont procédé. C'est vrai que c'est un livre assez complexe, et notamment toute l'enquête sur le mystère que tu décris, elle se passe beaucoup dans le livre, dans la tête d'un seul personnage qui réfléchit comment expliquer cette réalité qui se dérègle. Et ce que Benioff et Weiss ont fait, qui est assez malin, c'est qu'ils ont splitté ce personnage en 5, et ainsi le mystère, il se résout au fur et à mesure à travers les dialogues. D'où peut-être, tu as raison, ce côté un peu boîte à dialogue où on va plus expliquer que caractériser les personnages. Après, moi, je trouve quand même qu'ils ont un vrai talent à adapter une œuvre qui est à la base quand même extrêmement dense en information, à respecter la complexité du matériel d'origine, tout en faisant quelque chose d'assez divertissant. Et voilà, pour savoir où ça va à peu près, ce n'est que le début de l'univers qui est brossé. Pour moi, c'est à confirmer aussi pour les saisons suivantes.
Tout à fait. Ça reste pour moi une série qui est un petit peu froide, ce qui n'est pas inintéressant dans le sens où c'est une série qui questionne notre rapport à la technologie et au futur. Et moi, dans cette lecture un peu méta de la série, c'est-à-dire ce questionnement pas simplement par rapport aux extraterrestres, mais par rapport à des technologies que nous, on ne maîtrise pas, je trouve ça intéressant. Par rapport au futur aussi, vous n'avez pas le même rapport au futur quand vous savez qu'il y a des extraterrestres qui risquent de nouer contact avec vous d'un jour à l'autre. Dernier défaut, pour moi, c'est quand même une série qui n'a pas beaucoup d'idées de mise en scène, par rapport notamment à Game of Thrones. On ne va pas jeter l'opprobre sur Netflix, parce que ce serait un petit peu facile, mais là, on sent quand même qu'on n'est pas sur HBO, qu'il n'y a pas de grands épisodes, de grandes scènes, comme on a pu voir dans Game of Thrones.
Et si vous voulez vous faire votre propre avis, Problème à trois corps, c'est donc déjà disponible sur Netflix. Vous pouvez regarder l'intégralité de la première saison. Ça va, Audrey? Je suis pas mal en débatteur de secours face à l'absence de Thomas.
Ça fait l'affaire, merci.
Ça fait l'affaire, je te remercie. Bon, allez, on enchaîne. Audrey, pour ta deuxième recommandation, on va parler d'une autre adaptation. Cette fois-ci, d'une histoire bien réelle. C'est la saison 2 de Tokyo Vice.
Jack, you did not come to Tokyo in pursuit of one man. There are other stories, other crimes to be exposed. That is your job.
Et donc là, on est dans les années 90, au Japon, on suit un jeune journaliste américain qui, au départ, couvre des faits divers et devient petit à petit l'interlocuteur privilégié d'un chef de la mafia japonaise, des Yakuza.
Oui, tout à fait. Vous savez, Jake Eldenstein, c'est ce journaliste américain qui a réussi à intégrer la rédaction d'un grand quotidien japonais et qui en a tiré un livre qui s'est très bien vendu, qui s'appelle Tokyo Vice, et qui est en fait une collection de faits et d'enquêtes qu'il n'a pas pu publier à l'époque dans le journal dans lequel il travaillait, parce que les liens des Yakuza avec la société au Japon sont tellement étroits que c'est pas facile d'enquêter sur ces sujets-là. Donc, première saison avec un pilote réalisé par Michael Mann, extrêmement classieux, une série très ambitieuse, qui n'avait pas de résolution. Hein, la fin était totalement ouverte. On savait très bien qu'une saison 2 était en route. Deux ans plus tard, elle arrive sur Canal+. Alors, j'aurais beaucoup de mal à vous résumer l'histoire parce que ce sont des enjeux qui sont assez classiques hein, d'une série sur le banditisme et sur le journalisme. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on enquête sur des mafias qui sont très intégrées? Comment est-ce qu'on réussit à faire monter les sujets à la une d'un journal, et puis comment on fait quand on est américain pour creuser son trou dans une société qui n'est pas la nôtre.
Et donc, tu avais apprécié la première saison. Est-ce que la deuxième est aussi convaincante?
Oui, tout à fait, mais je pense qu'il faut quand même avoir aimé la saison 1. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que Tokyo Vice va vraiment gagner des téléspectateurs dans cette saison 2, parce qu'elle est vraiment dans un prolongement, un petit peu comme une série à l'ancienne. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une série qui est un petit peu l'anti-problème à trois corps. C'est-à-dire que c'est une série extrêmement classique, avec des enjeux très clairs. Même les intrigues, je les trouve très simplifiées par rapport à tout ce qui était raconté dans le travail. C'est une série qui vaut beaucoup pour sa mise en scène de la ville, de Tokyo, qui est filmé un petit peu à rebours de ce qu'on voit d'habitude. D'habitude, vous savez, Tokyo, c'est une ville très haute et là, elle n'est jamais filmée d'en haut. Elle est toujours filmée d'en bas. Elle est filmée à travers ses bas-fonds. Elle est vraiment filmée à travers ses renégats. Donc, les yakuza, les petites frappes, les prostituées, les escort girls, les petits journalistes occidentaux qui essayent de se faire une carrière. C'est une série qui est de plus en plus japonisante aussi et ça, je trouve que c'est un choix intéressant. On y entend beaucoup plus le japonais que l'anglais. Finalement, tous les protagonistes, y compris les protagonistes d'origine occidentale, parlent très bien le japonais. Donc ça, c'est un choix linguistique. Vous savez, à l'heure où il y a quand même une espèce de lissage de la langue dans les séries, c'est un choix plutôt intéressant. Et les personnages sont toujours très bien écrits, notamment les personnages féminins. Je trouve qu'il y a le personnage de l'ami de Jake qui est incarné par Rachel Keller, qui est toujours aussi intéressant. Et même les personnages, les japonaises, sont vraiment très en dehors des archétypes. Moi, ce qui me manque un tout petit peu dans cette saison 2, c'est ce qui faisait le sel de la saison 1, c'est-à-dire le point de vue de l'étranger. Là, on sent que Jake est beaucoup plus intégré dans la société, il est plus intégré dans son journal, dans son job et dans le pays. Et on a un petit peu moins le côté, vous savez, poisson hors de l'eau, comme disent les Américains. Il manque un petit peu le point de vue du gaijin.
Et alors ce Jake, ce gaijin, comme tu dis, est-ce qu'il reste convaincant quand même ?
Oh bah le personnage, moi, je le trouve toujours aussi charmant, d'autant plus qu'il est interprété par un acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ansel Elgort, parce qu'il dégage quelque chose de très singulier. C'est une espèce de grande baraque blonde, avec un visage très doux. C'est quelqu'un qui dégage une douceur qui est totalement à l'opposé de ses mensurations. Souvenez-vous, c'est lui qui joue le rôle principal, le rôle de Tony dans le West Side Story de Spielberg. Donc, c'est une grande baraque qui chante, qui danse. Pour moi, c'est un peu l'anti-Timothée Chalamet. Vous voyez, il dégage quelque chose de beaucoup plus complexe. Je trouve très intéressant. Donc, rien que pour ça, moi, j'ai envie de vous dire, regardez la série. C'est une série qui se renouvelle pas beaucoup, qui cultive une forme de classicisme hollywoodien qui est pas désagréable, mais après un début un tout petit peu mollasson vers le milieu de la saison, les scénaristes montrent qu'ils en ont encore un petit peu sous le capot et ça décolle bien. Ça, c'est très agréable à regarder.
Et donc, pour découvrir cette saison 2 de Tokyo Vice, il vous faudra patienter encore quelques jours. Sa sortie en France est prévue sur Canal+ à partir du 4 avril. Pour terminer cette sélection, Audrey, une pépite française, La Fièvre, disponible sur Canal+, c'est la dernière création du scénariste de Baron Noir. Alors pourquoi est-ce que cette série t'a particulièrement plu ?
Déjà parce que c'est une série d'Éric Benzekri. Vous savez, Éric Benzekri, c'est ce conseiller politique socialiste qui est devenu scénariste et qui a créé et scénarisé Baron Noir il y a quelques années. Baron Noir, c'est 3 saisons de radioscopie très très minutieuse de la politique française. C'était très réussi, donc on avait très hâte de voir ce nouveau projet. D'autant plus que, comme pour Baron Noir, il s'est associé à Ziad Doueri pour la réalisation. Ziad Doueri, il avait réalisé pas mal d'épisodes de Baron Noir et c'est aussi le réalisateur de Cœur Noir. Alors, La Fièvre, c'est un peu l'inverse de Baron Noir, c'est-à-dire qu'on sort totalement du champ politique pour aller s'intéresser à la fabrique de l'opinion. Ce ne sont plus des personnages essentiellement masculins, mais féminin. Et c'est une série qui regarde beaucoup plus vers l'avenir, l'avenir du pays et l'avenir de la politique, que ne le faisait Baron Noir.
Et ça raconte quoi exactement ?
La série commence dans le milieu du football. Ça se passe un soir de remise des trophées. Il y a une altercation entre un joueur star noir et son entraîneur. On ne sait pas trop de quoi il retourne, mais à un moment, le joueur se lève, met un coup de boule à son entraîneur et le traite de sale toubab, le tout sous l'œil de téléphone portable, de caméra, etc. Et donc la séquence est diffusée sur les réseaux sociaux. Ça grossit, c'est monté en épingle, c'est récupéré par la droite, par la gauche. Ça fait une espèce de tempête médiatique. Et vont être appelés à la rescousse une bande de communicants, parmi eux un personnage qui est interprété par Nina Meurice, qui va prendre en charge la communication de crise du club de foot. Et elle va s'opposer à une ancienne amie une communicante qui est devenue une stand-upeuse, qui est une espèce de mélange entre Dieudonné et Marion Maréchal Le Pen, une stand-upeuse réactionnaire. Et La Fièvre, c'est un peu compliqué à résumer, mais La Fièvre va être le récit de cette crise médiatique.
Et d'ailleurs, Éric Benzekri, tu l'as interviewé pour Le Monde et il t'a raconté pourquoi il s'était intéressé à ce thème qui est, tu viens de le dire finalement, assez casse-gueule.
C'est une série qui est née de son inquiétude par rapport à l'époque, de son inquiétude par rapport à la difficulté de saisir ce qui fait l'opinion, comment l'opinion se forge, de son inquiétude aussi par rapport à une société qui est extrêmement fragmentée et comment les politiques profitent de cette fragmentation, comment ils la récupèrent, mais aussi de leur propre désarroi par rapport à cet éclatement. Donc, pour préparer La Fièvre, il a fait un petit peu comme pour Baron Noir, c'est-à-dire qu'il s'est énormément documenté. Il est allé voir les instituts de sondage, les cabinets de conseil, les think tanks pour comprendre comment l'opinion se forge aujourd'hui. Ça fait la qualité de la série, c'est-à-dire que c'est une série qui a été écrite avec une très très grande minutie, avec une grande volonté de pédagogie, une grande volonté d'être le plus documentaire possible, mais avec aussi un grand souci de la fiction, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met la barre assez haut dans sa façon de raconter les histoires. En plus, il connaît très bien ses classiques, donc on va retrouver beaucoup ce goût du walk and talk, hein, qui est très cher à Aaron Sorkin. On va aussi retrouver un petit peu une façon d'écrire à La Succession, et tout ça fait un récit qui est extrêmement bien dialogué, avec des personnages très bien construits et formidablement incarnés.
En deux jours, l'intensité de la crise a explosé. Moi, je la connais bien, vous savez, elle cherche l'affrontement.
Toujours plus hard, toujours plus de buzz.
C'est un cauchemar.
Ils ont trouvé un martyr avec leur faudée.
Quand même, on a parlé de racisme anti-blanc.
C'est qui, oh ?
Les premiers épisodes de La Fièvre sont donc disponibles sur Canal+. Pour clore cet épisode, Audrey, c'est l'heure de ta carte blanche et tu voulais nous parler du festival Sérimania, le grand rendez-vous annuel français autour des séries, dont l'édition 2024 vient tout juste de se terminer à Lille.
Absolument, on y était. Cette année encore, le festival a battu son record de fréquentation. C'est un événement de plus en plus grand public. Mais c'est vrai que côté sélection et palmarès, le festival traduit quand même une petite baisse de régime de la production. Alors c'est dû à pas mal de facteurs différents. Il y a eu la grève des scénaristes aux États-Unis l'année dernière qui a un petit peu tari le flux de production. Et il y a eu aussi l'absence pour la première fois de séries israéliennes en compétition. Mais il y a aussi peut-être une petite baisse cyclique, en tout cas on l'espère, de la créativité. Et malgré la présence de Zalbat Manglish, qui est le co-créateur de The OA et de cette formidable série qui s'appelle Un meurtre au bout du monde, il était président du jury cette année, le palmarès témoigne quand même d'une forme de conservatisme. Le prix de la meilleure série et le prix de la meilleure série française sont allés à deux productions signées Arte. Rematch, c'est l'histoire du duel entre le grand joueur d'échecs Garry Kasparov et l'ordinateur Deep Blue en 1996 et 1997. Et Machine, la série Machine, qui est une sorte de croisement entre, je vous la fais courte, entre Kill Bill et une chronique sociale sur fond d'usine en péril dans un trou paumé de la France. Mais il y avait une troisième série Arte présentée cette année à Lille. C'est une série qui est signée Erwan Leduc. Alors, Erwan Leduc, c'est un ancien journaliste du Monde. Moi, j'ai un avis très positif sur cette série, mais je ne suis pas la seule. Les échos ont été très positifs par tous les journalistes qui l'ont vu là-bas. C'est une série qui s'appelle Le Monde n'existe pas. Et très honnêtement, elle était de loin, en tout cas la plus singulière et la plus audacieuse de la compétition française. Bizarrement, elle est repartie bredouille avec simplement un prix pour la meilleure musique. En revanche, la sélection parallèle qui s'appelle le Panorama International a regorgé, comme chaque année, d'excellentes propositions venues d'ailleurs. Parmi elles, une série qui s'appelle La Mesías, une série espagnole très originale, extrêmement accrocheuse sur les ravages d'une secte religieuse sur une femme et ses deux enfants. Et on espère vraiment qu'elle trouvera très rapidement un diffuseur en France.
Et voilà pour ce top 3 séries et cette carte blanche du mois d'avril. Merci beaucoup Audrey.
Merci Jean-Guillaume.
Cet épisode a été produit par Diane Jean et réalisé par Thomas Zeng. Et en attendant notre prochain épisode, l'heure des séries, je vous invite à lire les critiques, analyses, interviews d'Audrey Fournier et Thomas Sautinel qui reviendra dans le prochain épisode dans la rubrique séries sur notre site lemonde.fr. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt.